N'ayez de dette envers personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons mis notre foi en Christ. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et des beuveries, des coucheries et des débauches, des querelles et de la jalousie. Revêtez la façon d'être du Seigneur Jésus-Christ. Sortez d'une logique humaine qui a pour moteur les mauvais penchants. Romains 13, versets 8 à 14, que je viens de vous lire dans la version de la Nouvelle Bible en français courant. C'est à la fin de l'Épître aux Romains, de sa lettre aux chrétiens de Rome, que l'apôtre Paul leur adresse un certain nombre de considérations pratiques, des conseils et des instructions pour le quotidien de la vie des croyants, entre eux dans l'Église et dans la société. Et dans notre passage, il rappelle le commandement fondamental concernant la vie du croyant, le corollaire indispensable au premier commandement qui est celui d'aimer Dieu, celui d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est Jésus lui-même qui le dit dans les évangiles, le plus grand commandement est double, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. On le sait. Est-ce qu'on le vit ? Hier soir, au groupe de jeunes, on a pris une toute courte parabole. Vous savez, celle où il est dit, où Jésus nous dit que le royaume des cieux est semblable à un champ dans lequel quelqu'un trouve un trésor, alors il vend tout ce qu'il a pour acheter immédiatement ce champ. Et il est tout heureux de le faire. Des choses qu'on sait, le royaume des cieux a une valeur inestimable. Dieu nous demande d'aimer, de l'aimer lui en tout premier et notre prochain comme nous-mêmes. Des choses qu'on sait, que l'on répète et qu'on a tant de mal à mettre en pratique. Dès que ça doit nous coûter quelque chose, tout d'un coup, c'est moins évident. Et Paul souligne l'importance de ce commandement de l'amour du prochain dans le contexte particulier où se trouvaient les premiers destinataires de l'Épître. Il dit « Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. » On perçoit un sentiment d'urgence dans les paroles de l'apôtre Paul. Il ne s'agit pas de repousser à demain la mise en pratique de ce commandement. Au moment où il rédige cette lettre, on est à peu près en 57 après Jésus-Christ, moins de 30 ans après la mort et la résurrection de Jésus, ou 30 ans environ. Et les choses commencent à se compliquer sérieusement pour les chrétiens, notamment les chrétiens dans la ville de Rome, à laquelle Paul écrit. L'opposition qui se manifestait au début que de la part de quelques chefs religieux juifs commence à se manifester aussi chez le pouvoir romain. C'est dans les années 60 que l'empereur Néron persécutera les chrétiens à Rome de manière assez violente. La persécution, malheureusement, s'intensifiera encore par la suite et se généralisera à l'ensemble de l'Empire romain. Ça explique peut-être la tonalité assez alarmiste de l'apôtre Paul. Vous savez en quel temps nous sommes. Et sa conclusion n'est pas « alors défendez-vous, alors cachez-vous ». Alors, tenter de fuir la menace. Non, son commandement, c'est comme vous savez dans quel temps nous sommes, eh bien alors, aimez. La nuit est avancée, le jour approche, alors aimez, parce que c'est ça le plus important. Face à la menace qui se profile, en plus de rappeler le commandement de l'amour du prochain, l'apôtre Paul va exhorter ses lecteurs, d'ailleurs en s'incluant lui-même, puisqu'il utilise le « nous », « rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière ». C'est un appel à l'intégrité, à l'honnêteté, à vivre dans la lumière et de se débarrasser des œuvres que l'on commet dans l'obscurité. Dans une situation de crise, du coup, je retiens deux points. Aimer notre prochain et vivre dans la lumière. La crise ne doit pas être l'excuse pour nous cacher. Et ce sont deux points étonnants, parce que ce ne sont pas nécessairement nos premiers réflexes. Notre premier réflexe serait celui de la défense, peut-être même du repli sur soi. Comment réagissons-nous dans les crises face à l'incertitude et aux craintes qu'elles suscitent ? Nous vivons aussi dans des temps d'incertitude. C'est une évidence avec des événements inquiétants qui ont un impact et qui ont eu un impact mondial. Maintenant, on en est un petit peu sorti, la crise du Covid, mais elle a laissé des cicatrices. La guerre en Ukraine, inquiétant aussi, avec les derniers événements encore. Et cette guerre qui vraiment commence à durer. Le dérèglement climatique, qui est de plus en plus visible. Tout cela a des conséquences. Évidemment, je ne vous apprends rien au niveau économique, au niveau social et au niveau aussi psychologique. Tout cela fait monter le niveau d'anxiété, le niveau d'inquiétude, si bien qu'on aspire à une forme de paix qu'on ne connaît pas en regardant notre monde aujourd'hui. Et je n'ai pas l'impression dans ce contexte que le premier réflexe des êtres humains et des créatures de Dieu que nous sommes, soit l'amour du prochain et l'intégrité. Ce que je constate plutôt aujourd'hui, c'est effectivement une tendance au repli sur soi, un repli qui peut prendre plusieurs formes, un repli identitaire, un repli communautariste, voire sectaire, ou pire encore, fanatique. On s'enferme et on enferme les autres dans des catégories radicales. J'en parlais la semaine dernière aussi lors de ma prédication. Les pros ceci, les anti cela, on se fige dans des a priori et des caricatures. On se confine dans un cocon avec le confort, la sécurité, le bien-être personnel comme valeur suprême. On se replie chez soi, on a une lourde tendance à stigmatiser l'autre. On va jusqu'à fermer les frontières, on refuse l'accueil et l'hospitalité. Ce n'est pas l'exemple que Jésus-Christ nous a laissé, lui qui trace un chemin, comme on vient de le chanter. Il est la porte, il libère, il ne rejette pas celui qui vient à lui, et plus que cela, il dit « Venez à moi ». Ne pensons pas que les églises et les croyants échappent au repli. Nous devons être vigilants à cela. Il nous faut sans doute entendre les exhortations de l'apôtre Paul comme nous concernant nous aujourd'hui, surtout si elles nous dérangent un peu. Hein. Ça veut peut-être dire que là, il y a quelque chose à prendre en compte. L'apôtre Paul évoque donc en premier lieu l'amour du prochain, non pas comme un conseil facultatif, vous pouvez aimer votre prochain si vous en avez envie, mais comme une urgence. Et en particulier dans un monde en crise, s'il y a une urgence, s'il y a une priorité dans ce monde en crise, c'est celle de l'amour. Il est urgent d'aimer. L'amour ne supporte pas la procrastination. Ah ben je t'aimerai plus tard, demain, quand j'en aurai le temps. L'amour, c'est l'ingrédient indispensable à toute relation qui veut le bien de l'autre. Et selon les cas, l'amour se traduira différemment par de l'affection, de l'amitié, la fidélité, par le respect, l'accueil, l'écoute, la bienveillance, mais parfois aussi par la franchise et le courage. Il est urgent d'aimer, aimer Dieu et aimer notre prochain, d'autant plus quand l'inquiétude et l'incertitude gagnent du terrain, quand la haine, la soif de pouvoir et la violence progressent dans notre monde. Notre monde n'a pas besoin de plus de murs, j'en suis convaincu, de plus de barrières et de plus de portes fermées. Il a besoin de plus de solidarité, d'accueil et de bienveillance. C'est le chemin que Jésus-Christ nous a montré, qui est toujours d'actualité et peut-être encore plus aujourd'hui. Le Fils de Dieu est devenu homme pour manifester l'amour de Dieu, pour manifester sa solidarité avec l'humanité et son accueil inconditionnel. Ce n'est pas le chemin de la facilité, mais c'est le chemin qu'il fallait emprunter et qu'il nous faut emprunter aussi. Jésus-Christ est venu pour aimer, mais vous le savez, il a été rejeté. Il est venu pour apporter le pardon et la réconciliation, mais il a été condamné. Il est venu pour guérir et pour libérer, mais il a été crucifié. Et malgré tout cela, il a tenu le coup. Il nous a aimés jusqu'au bout, nous montrant par là un exemple à suivre. Il a été solidaire avec nous jusque dans la mort. Sa réponse au rejet et à la haine des humains, c'était l'amour. En accueillant tous ceux qui venaient à lui, en proclamant la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, en consolant, en libérant, en guérissant avec patience et bienveillance. Et je suis toujours émerveillé, on a chanté que notre Dieu est merveilleux, quand on ouvre les pages de l'Évangile, il n'y a rien de négatif. Dans les réactions de Jésus, dans ses propos, il n'y a rien qui manque d'amour, et même lorsqu'il reprend, il le fait pour le bien de son prochain. Il nous a aimés. N'est-il pas urgent de l'aimer lui aussi et de nous aimer les uns les autres? Deuxième point, l'importance d'agir dans la lumière. L'urgence d'aimer ne nous pousse pas pour autant dans un élan spontané, incontrôlé, tête baissée, sans recul. L'exhortation de l'apôtre Paul nous invite à prendre du recul aussi et interroger notre conduite. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Les exemples que Paul prend ensuite dans ce passage sont liés à son contexte, mais n'ont malheureusement pas perdu de leur actualité. Orgie et débauche, nous en trouvons plusieurs formes de ces termes dans notre société. Querelle et jalousie, ça c'est universel aussi, malheureusement. Mais retenons ce contraste entre la nuit et le jour, entre ce qu'on fait caché et ce qu'on fait dans la lumière. Je n'ai pas de doute que nous avons aussi dans notre vie des zones d'ombre, voire d'obscurité, dans lesquelles nous faisons, disons ou pensons des choses que nous ne voudrions surtout pas voir être mises en pleine lumière. S'il n'y a rien qui nous vient en tête maintenant, dans quelques secondes, ça va venir. Alors, jouons carte sur table. Il ne s'agit pas d'exposer sa vie privée et de ne garder aucun jardin secret. Mais, tout en reconnaissant nos faiblesses, il s'agit surtout de se conduire dans la vie de tous les jours d'une façon honnête et intègre, et j'ai envie d'ajouter cet adjectif, d'une façon cohérente avec notre foi. C'est peut-être ça aussi, la lumière, vivre dans la lumière, vivre de façon cohérente avec notre foi, avec ce qu'on dit. Le pire des témoignages, ce ne sont pas nos faiblesses. Pourquoi ? Parce que tout le monde en a. Nos limites, non plus. Tout le monde en a. Et nos erreurs, non plus. Car tout le monde commet des erreurs. Mais le pire des témoignages, c'est notre incohérence. Il n'y a rien de pire pour le témoignage que l'incohérence entre nos belles paroles et nos beaux discours et nos actes, entre l'attitude du dimanche à l'église et celle à la maison, le reste de la semaine ou au boulot ou dans d'autres cadres. Car nous sommes observés. Bien sûr, nous pouvons cacher le fait que nous sommes chrétiens et nous débrouiller pour que ça ne transparaisse jamais dans notre vie quotidienne. Mais comment prétendre alors vivre dans la lumière ? La réalité, c'est que lorsque les gens savent que l'on est chrétien, d'une foi vivante, eh bien, ils nous observent. Ils regardent notre façon d'être, notre conduite, comment nous nous comportons avec les autres, ce que nous faisons ou ne faisons pas. Et s'il y a une contradiction entre les valeurs de notre foi, entre l'enseignement de la foi et nos paroles et nos actes, entre ces deux choses, s'il y a un décalage, une incohérence, alors ils s'apercevront que nous ne vivons pas dans la lumière. Mais vivre dans la lumière, ce n'est pas pour autant essayer de faire croire que puisque nous avons la foi, notre vie est parfaite. De toute façon, elle n'est parfaite que quelques secondes de suite. À partir du moment où je pense déjà ça, je suis sur une voie qui me conduira dans l'imperfection. Notre comportement n'est pas sans faille. Nos intentions ne sont pas toujours pures et notre joie pas toujours complète, il faut l'avouer. Nous pourrions jouer ce jeu et essayer de faire illusion, mais ça ne durerait qu'un temps très limité. Vivre dans la lumière, c'est être soi-même avec ses qualités et ses défauts, avec ses limites et ses faiblesses, en assumant qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on espère, et en démontrant comment notre foi impacte notre quotidien et nous transforme. Et si nous avons besoin de transformation, c'est bien parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Comment notre relation avec Jésus-Christ nous rejoint dans tous les aspects de notre vie. C'est cela le témoignage, et notre cohérence est celle de progresser dans ce témoignage authentique. Voilà le défi que nous partageons, comprendre et vivre l'urgence d'aimer et l'importance d'agir dans la lumière. Dans la prière de Jésus, en Jean 17, il y a un détail qui m'a frappé et qui peut entrer en écho aussi avec ce défi. C'est le verset 23 du chapitre 17 de l'évangile de Jean que je vous lis maintenant. « Je vis en eux, c'est Jésus qui parle, tu vis en moi, c'est ainsi qu'ils deviendront parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce verset. C'est que Jésus ne prie pas pour que le monde voit combien ses disciples aiment Dieu, mais Jésus prie pour que le monde voit combien Dieu aime ses disciples, combien ses disciples sont aimés par Dieu. Je vous relis le verset. « Je vis en eux, tu vis en moi, c'est ainsi qu'ils deviendront parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Ce n'est pas en cherchant à être des disciples parfaits que nous vivrons dans la lumière, mais en se laissant aimer par Dieu et ne pas avoir honte que ça se voit. Je peux alors vraiment aimer mon prochain parce que Dieu m'a aimé le premier. Je peux sans crainte vivre dans la lumière parce que je sais que Dieu m'aime. Alors je ne serai pas tenté par une forme de double comportement ou de double vie, ou de cacher des choses, si je sais que Dieu m'aime. Amen.